Chapitre 13e. En quittant Pondichéry. Je quitte demain Pondichéry pour aller aux États Rajput, dans l'Inde affamée, en traversant le Nizam. J'étais resté 10 jours à peine dans notre vieille colonie, et je suis tout étonné de m'apercevoir que j'en partirais avec un serrement de cœur. Si légèrement jusqu'ici j'avais vu la fin de toutes mes étapes dans l'Inde, mais on dirait que ce pays de Pondichéry m'a repris. On dirait que j'y ai trouvé des ressouvenirs. À l'instant de ce départ, c'est en moi quelque chose comme ce que j'éprouvais jadis, au temps de ma prime jeunesse, quand vint l'heure de quitter, après une année de séjour, Saint-Louis du Sénégal, cette autre vieille ville éteinte. J'habitais à l'hôtel, comme le premier passant venu, car à Pondichéry il y a 2 hôtels qui végètent modestement, sans voyageurs. J'avais choisi celui qui est au bord de la mer, une maison d'aspect un peu seigneurial, datant de la fondation de la ville et cachant sa vétusté sous de la chaux bien blanche. J'étais entré avec quelque inquiétude, vu le délabrement, l'air d'abandon. Et qui m'eût dit que je m'attacherais à ce gîte de hasard? La grande chambre que j'occupais, déjetée par les ans, toute blanche de chaux et presque vide, avait je ne sais quelle analogie, à la fois indéfinissable et intime, avec une autre où j'avais habité plus longtemps à la côte d'Afrique. Des fenêtres à contrevent vert donnaient sur l'immensité de la mer des Indes. La brise du large m'apportait, aux heures les plus lourdes du jour, une fraîcheur idéale. Comme dans certains salons créoles, j'avais des fauteuils centenaires en bois des îles sculptées et sur une console Louis XVI, une pendule du même règne, dont le tic-tac révélait la petite vie persistante, la petite âme vieillotte et anémiée. Tout était desséché, vermoulu, cassant. On n'osait pas s'asseoir trop fort, ni se mettre au lit avec brusquerie. Mais on jouissait de l'inaltérable beau temps, de l'air pur, du bleu de l'horizon marin, de la paix délicieusement nostalgique des entours. En s'accoudant aux fenêtres, on voyait, en plus de la plage et de la mer, les terrasses des vénérables maisons proches, leurs toits à la mauresque, tout fendillés de soleil, et cela encore était pour me rappeler l'Afrique. Du matin au soir, vous berçait la chanson somnolente d'une équipe d'Indiens nus qui travaillait en rêvant, dans une cour voisine, à remplir des sacs en natte avec des grains ou des épices pour les navires. Et, ni nuit ni jour, je ne fermais rien. Alors les bêtes de l'air étaient chez moi comme chez elles. Les moineaux, sans s'inquiéter de ma présence, venaient se promener sur les nattes de mon plancher. Les petits écureuils sauteurs, après un coup d'œil d'enquête, entraient aussi, couraient partout sur les meubles, et un matin je vis 2 corbeaux perchés au coin de ma moustiquaire. Oh, la tranquillité mélancolique du milieu des jours, quand le soleil tropical, autour de la maison, accablait les silencieuses petites rues aux noms si démodés. Dans ma chambre, ni dans ses alentours, aucune indication de nos temps modernes. Rien non plus pour préciser une époque sur ces terrasses solitaires ou là-bas sur cette nappe bleue, déserte à l'infini. Et le calme aussi de ces hommes occupés à préparer leurs sacs de graines faisait songer à quelques scènes de la vie coloniale d'autrefois. Alors, oubliant notre affolement, notre âpreté, nos paquebots rapides, je me croyais au temps où l'on venait ici avec des lenteurs qui décuplaient la distance, en contournant l'Afrique sur de beaux voiliers capricieux. Mon regret de m'en aller, bien entendu, ne peut pas être profond. Tout cela s'oubliera demain, chassé par la fantasmagorie des images nouvelles. Mais rien, dans l'Inde merveilleuse que j'ai déjà vue ou que je vais parcourir encore, ne saurait me retenir comme ce petit coin de vieille France égaré au bord du golfe de Bengale. Ainsi se termine, dans l'Inde des grandes palmes, de Pierre Loti.